Wise of Claude.
Oui, bonjour Alexis.
Aujourd'hui à l'émission, en deuxième partie, on va recevoir Catherine Boivin. De quoi elle va venir nous parler aujourd'hui, Sophie Claude?
Bien, elle va nous parler de ses projets en tant qu'artiste multidisciplinaire, mais aussi du phénomène des Pretendians,
ouais.
Donc les gens avec des origines autochtones questionnables.
En première partie, on reçoit donc Hugo Dufresne, directeur général de Nurate. Je vais en vérifier avec lui si j'ai prononcé ça comme il faut. Donc, lui, il y a un projet Jeunes Caribous qui vont être en expédition bientôt. Monsieur Dufresne, quoi?
Oui, bonjour.
Oui, comment? Est-ce que j'ai prononcé comme il faut Nurate ou il faut le dire autrement?
On dit Nurate.
Nurate.
Même moi, étant originalement de la rive sud de Montréal, j'ai beaucoup de misère avec le double R en une autre là, fait que je pourrais même pas le prononcer le plus parfaitement possible. Je me ferais reprendre aussi au Nunavik.
Bon. On va commencer par peut-être savoir c'est quoi que l'organisme Nurate, c'est quoi sa mission, comment ça a été fondé?
Oui, en fait, ben Nurate, la mission d'organisation, c'est d'offrir des opportunités de développement personnel et social aux jeunes du Nunavik, mm-hmm. Par l'entremise de programmes d'intervention par la nature et l'aventure. C'est donc, on va sur le territoire, on utilise le territoire, les activités de plein air, le contact avec la nature pour permettre aux jeunes de se développer personnellement, socialement et professionnellement.
Ça a été fondé quand?
On en est à notre 9e année de ce projet-là, de l'organisme communautaire en soi. Fait qu'on se prépare tranquillement pour fêter nos 10 ans à l'automne prochain, au début de la prochaine année scolaire. C'est parti d'un projet parascolaire d'une professeure, okay. Valérie Raymond, qui est oui. toujours la directrice du conseil d'administration. Puis elle a commencé à suivre une expédition de ski de fond avec ses jeunes d'amis à elle qui skiaient de Montréal à Coudjouac, qui s'appelait le Projet Caribou. Puis avec ses jeunes dans sa classe, ils ont décidé qu'ils allaient être les jeunes caribous, puis ils s'entraînaient pour finir, aller rejoindre cette expédition-là pour leur arrivée jusqu'à Coudjouac. Puis de fil en aiguille d'un programme de plein air d'entraînement, c'est devenu un programme de leadership pour s'officialiser en tant qu'organisme communautaire d'intervention par la nature et l'aventure. Puis depuis ce temps-là, depuis 2014, ben c'est ces 8 jeunes-là qui ont donné la petite étincelle pour que maintenant on offre nos 3 programmes à plus de 300 jeunes par année.
Donc, je comprends bien, il y a une approche en 3 temps, 3 programmes. Le
oui,
premier,
exactement.
C'est quoi?
Le premier, c'est le programme Nurate, là, qui est vraiment à l'origine de la fondation de l'organisme, qui est encore aujourd'hui notre plus gros programme. Fait que le programme Nurate, c'est parascolaire. C'est un programme qu'on offre en partenariat avec la commission scolaire au Nunavik. Puis, c'est environ 250 jeunes par année. Fait que concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là? Ils vont se rencontrer une fois par semaine. Dans chaque école, c'est une équipe de 8 à 12 jeunes. Puis une fois par semaine, pendant toute l'année scolaire, ils vont faire une activité, que ce soit un entraînement en ski de fond, de la cuisine pour préparer des sorties, activités traditionnelles avec des gens de la communauté, que ce soit de la pêche, de la chasse, construction d'un igloo. Puis ils se préparent tranquillement à travers l'année là, pour des plus gros défis. Puis ils vont faire 2 sorties en camping d'une fin de semaine durant l'année scolaire. Puis là, vous parliez d'expédition en début d'émission. Bien là, ça s'en vient. On a notre première expédition la semaine prochaine. Le programme se termine sur une grosse expédition régionale là, qui rassemble 4 équipes, donc 4 communautés différentes qui vont prendre l'avion, se rejoindre à un endroit, puis vivre une expédition de ski de fond d'une semaine ensemble.
Ça doit être quelque chose à organiser. On rassemble. Est-ce que c'est toutes les communautés inuites du Nunavik qui peuvent bénéficier des services de Nurate?
Oui, exactement. On offre nos programmes dans les 14 communautés. Cette année, on est présent dans 12 communautés sur 14, mais à chaque début d'année, on essaie d'être présent dans les 14.
OK. Donc, vous regroupez... Oui, vas-y, Sophie Claude.
Pardon, Alexis. Moi, je suis curieuse. Dans 14 communautés, c'est quoi le taux de participation moyen par communauté? Vous avez 1, 2 participants, une dizaine de participants?
Environ, ben, c'est environ 8 à 12 participants par école. Puis il y a certaines communautés où est-ce que il y a le programme à l'école secondaire et à l'école primaire. Fait qu'on a certaines communautés où il est aussi offert en format initiation. Fait que les sorties sont un petit peu de plus petite envergure pour les jeunes de 10, 11, 9, 10, 11, 12 ans. Fait que je vous dirais une moyenne de 8 à 12 jeunes là, par école qui s'impliquent dans le programme.
Puis, en termes d'implication plutôt locale, je présume que vous avez des guides. Est-ce que les aînés des communautés sont aussi impliqués?
Oui, en fait, ben nous, on côtoie jamais le territoire sans être accompagné, guidé par des gens des communautés. Comme par exemple, là, on s'en va à Umiouyak sur la baie du Tson, puis on a les guides de Parc Nunavik qui vont être là pour nous accompagner. Souvent, quand il n'y a pas des institutions formelles comme parc, ben on va trouver dans la communauté des gens qui sont des bons chasseurs, qui connaissent bien le territoire, puis c'est eux qui vont s'assurer que nous, on est en ski de fond, on avance tranquillement, puis eux, dans le fond, ils nous encerclent, puis ils accompagnent l'expédition en ski doux, ils vont monter les campements, s'il y a des opportunités de chasse, ils vont nous dire, bon, on arrête le ski pour aujourd'hui, on va amener les jeunes, ils peuvent vivre telle expérience. Fait que, tu sais, le ski de fond, pour nous, c'est un prétexte pour côtoyer le territoire puis amener les jeunes à se développer, c'est pas la fin en soi, là.
OK. Puis, dans le fond, les apprentissages traditionnels qu'on parle justement de la chasse puis la compréhension du territoire quand on se déplace aussi ont un espace prépondérant, est-ce que je comprends?
Oui, exactement. On essaie de laisser la place pour le plus de... Nous, on se veut des facilitateurs qui créent les opportunités pour ces échanges-là. On le sait que l'accès au territoire n'est pas nécessairement possible pour tous les jeunes dans les communautés. Ça prend des skidoux, ça prend de l'essence, ça prend du budget. Fait que c'est, il y a certains jeunes qui ont l'opportunité de beaucoup côtoyer le territoire, d'autres jeunes que c'est moins leur cas. Fait qu'on est, pour nous, notre seul critère d'inclusion, c'est la volonté de participer au programme, puis on fournit tout le reste. C'est un programme qui est gratuit pour tous les jeunes. Fait que ça permet ce contact-là au territoire pour le plus grand nombre de jeunes possible, dans le fond, on espère.
C'est vraiment intéressant. Moi, ma question, que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se posent, c'est qui finance ça à ce moment-là?
Qui finance ça? On a plusieurs bailleurs de fonds, mais principalement, c'est la société McKivick qui gère les fonds de redevance là, de la Convention du Nord québécois et de la baie James. Ils ont un programme de financement pour la prévention auprès des jeunes. On est aussi beaucoup financé par la santé régionale des services sociaux du Nunavik, puis par le gouvernement régional Kativik, là, qui est un gouvernement régional qui a été créé aussi suite à la convention de la BGM. Fait que majoritairement, notre financement, c'est des institutions nordiques qui financent des programmes pour le Nunavik. Là. On pourrait pas utiliser ces fonds-là pour offrir le programme dans d'autres communautés du Québec, par exemple.
Est-ce que vous faites juste du ski de fond ou il y a d'autres activités, par exemple, plus au printemps, à l'automne ou à l'été?
Oui. Déjà, dans le programme Nourrette, l'activité principale, c'est le ski de fond, mais il va y avoir des activités de communication, des activités de team building, de la cuisine, comme je disais, des constructions d'igloos. Fait que c'est pas toujours le ski de fond. Ça reste le sport principal. Mais sinon, dans nos autres programmes, on fait du kayak de mer à l'été, du canot camping. C'est les deux autres activités de plein air qu'on utilise le plus. Puis, ben, en fait, c'est qu'on a le matériel pour le faire. On a aussi un stage de réinsertion socio-professionnelle où est-ce qu'on est en construction d'une cabine pour se faire des camps de chasse. Fait qu'il y a des jeunes qui font ce programme-là aussi durant l'été. Là. Fait que c'est pas exclusivement pour le ski de fond.
C'est dans l'approche de l'opportunité de développement professionnel?
Oui, exact. C'est à travers la construction d'une cabine. Ça dure un mois, là, du début à la fin, ce projet-là, pour 8 jeunes à chaque... On offre le programme à 8 jeunes à chaque année pour le développement professionnel.
Puis, est-ce qu'il y a d'autres approches aussi que vous avez relativement peut-être à la facilitation du retour sur le territoire? Ça se passe par les programmes... Nurette, Tutit ou Icar Tweet?
Oui, exact. Ben, pour le programme Nourrit, je pense que j'espère avoir fait un bon portrait. Pour le programme iCartWit, comme vous venez de le dire, c'est un programme qui est à visée plus développementale, alors que Nourrit, c'est plus éducationnel. Puis là, c'est le kayak de mer, c'est dans le cadre de ce programme-là.
Qu'est-ce qu'on veut dire par développemental?
On veut dire qu'on va viser plus le développement d'un réseau de soutien, développement d'éléments d'engagement face au projet, de se fixer des objectifs, de trouver des forces. C'est un continuum, une séquence là, dans l'intervention par la nature et l'aventure. C'est un terme un peu qu'on utilise dans ce monde-là. Là. C'est ça. Fait qu'on sait que le kayak de mer, c'est une activité qui est traditionnelle chez les Inuits. Fait qu'on oui. trouvait que ça faisait sens pour nous de créer un projet autour de cette activité-là, puis d'offrir cette opportunité-là à certains jeunes là, à chaque année. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le kayak de mer, puis le projet d'insertion socio-professionnelle, comme je disais, la construction d'une cabine, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour se construire des camps de chasse, des compétences techniques qui sont très utiles pour les jeunes au Nord, puis qui peuvent les rapprocher du marché de l'emploi. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de développer ce programme-là. Là. Puis finalement, ben, le programme est tout de suite, c'est un programme Nourrit, c'est le bébé des caribous, puis tout de suite, c'est les caribous matures. Fait que c'est des jeunes qui souhaitaient continuer à s'impliquer au sein de notre organisation, puis qui demandait des plus gros défis, des plus gros challenges. Fait que c'est un programme qui est plus axé sur les jeunes leaders dans les communautés qui sont plus vieux, qui ont fini le secondaire. Mm-hmm. Puis on a monté un programme, dans le fond, ils voulaient une plus grosse expédition. Fait qu'on leur a dit parfait, mais on va l'organiser ensemble. Fait qu'ils vont être appelés à monter l'expédition, ils vont développer des skills de gestion de projet, ils vont respecter des échéanciers, ils vont monter le menu eux-mêmes, ils vont demander des soumissions, fait qu'ils vont développer certains outils comme ça, plus de gestion de projet sur comment j'ai une idée, j'ai un objectif, comment je mets ça en place au lieu de se faire inviter simplement dans une expédition qui est déjà prête comme pour les élèves du secondaire. Là. Fait qu'ils développent plus de skills de leadership, puis à travers ça, on essaie de leur donner des compétences aussi d'animation de groupe, de gestion des risques, de compétences qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours pour ces jeunes-là qui sont appelés qu'eux considèrent qu'ils sont comme plus des leaders. Non?
Donc ça, c'est une expédition à canot. Est-ce que c'est sur une rivière ou j'imagine le kayak de mer, ça le dit, c'est le long des baies, puis en mer, le canot, on fait ça sur une des grandes rivières du Nord?
Sur les grandes rivières du Nord, exactement. On a parcouru trois dans les trois derniers étés. La rivière Cooksouac, qui se termine à Coudjouac. Et on a parcouru la rivière aux Feuilles, qui est une rivière très connue au Nord. Puis la rivière Corok, qui est un des parcs Nunavik aussi. Fait qu'on va en ouvrir une nouvelle l'été prochain avec un nouveau groupe de jeunes là, qui est intéressé par le défi.
Et puis, pardon. pour les compétences que ces jeunes-là acquièrent, on parlait des skills, mais c'est vraiment sur les compétences. On parle de leadership, justement, de construction, etc. Est-ce que lorsqu'ils complètent le programme, est-ce qu'ils ont des crédits académiques, un certificat? Lorsqu'ils complètent ce programme-là, mis à part les compétences qu'ils ont acquises, est-ce qu'il y a une reconnaissance de ces acquis-là?
Oui, ben nous, c'est une excellente question parce qu'on trouve que c'est super important de célébrer les succès, puis de célébrer l'apprentissage, puis le dépassement qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de crédit académique à proprement parler, mais quand on revient en communauté, puis on a fini une expédition, on organise un grand festin communautaire où on va inviter toute la communauté à venir célébrer le succès de ces jeunes-là. On va manger de la nourriture traditionnelle, tout le monde ensemble. On va faire des slideshows de photos, puis on remet des certificats là, aux jeunes pour dire qu'ils ont réussi à compléter le programme. C'est pas des crédits à l'école, là. C'est un certificat de Nourrit Jeunes Caribous, comme quoi ils ont réussi à compléter le programme. Mais c'est surtout l'événement en soi où on célèbre le succès puis ce qu'ils ont réussi à vivre là, qui est significatif.
C'est intéressant, peut-être qu'éventuellement travailler sur un programme d'accréditation puis de crédit en tant que tel pourrait être pertinent parce que c'est super d'avoir un certificat, d'avoir une célébration communautaire, d'avoir réussi à compléter le programme, mais certainement des compétences comme la construction d'une cabine puis le leadership, c'est des compétences qui vont les suivre toute leur vie, très certainement.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Dans le cadre du projet canot spécifiquement, on a donné des cours de canot. Fait qu'on a fait monter un instructeur, puis ils ont leur brevet de canot. Fait que ça, c'est des compétences qui sont reconnues là, par la Fédération de canot du Québec. Pour ce qui est du cours de charpenterie, menuiserie, on est en discussion là, avec le gouvernement régional Kativik qui nous aide à financer ce projet-là. Pour voir s'ils ne pouvaient pas au moins avoir, tu sais, comme la carte sécurité sur les chantiers pour qu'ils se rapprochent plus du marché professionnel puis de se faire embaucher sur les chantiers au nord. Ça serait déjà la première base à obtenir pour eux. Fait que c'est une excellente piste de réflexion.
On est avec Hugo
Oui,
Dufresne. Oui, on est avec Hugo Dufresne, directeur général de Nurette. On va prendre une petite pause musicale. On vous revient après la petite pause.
Alors, cette semaine, je me suis amusée à faire une thématique plutôt gothique en termes de musique. Alors, on écoutait Pixic avec Tuk-Tuk-Strut, qui font vraiment de l'électro mélangé avec du chant de gorge et c'est assez lyrique. Et aussi, elles ont le look assez gothique aussi. C'est assez intéressant qu'est-ce qu'elles font.
Il faudrait que j'aille voir un de leurs vidéoclips. Hugo Dufresne, directeur général de Nurette.
Oui.
Oui. Donc,
Donc, oui,
vas-y, SF-Claude.
vas-y. ça paraît quand on n'est pas en studio ensemble, c'est plus difficile un peu de se donner des cues qui commencent, qui continuent. Monsieur Dufresne, à part pour les compétences dont on parlait qui sont acquises, le fait que ça ait commencé par vraiment les jeunes caribous puis qu'il y a eu des développements pour d'autres programmes, ça veut dire que les membres de la communauté, les participants, en voulaient plus. Ils voulaient plus de programmes qui couvraient une plus grande tranche d'âge et donc plus de compétences, c'est bien ça?
Oui, exactement. Puis je pense que c'est vous mettez le doigt vraiment sur ce qui est la force de notre organisation, puis pourquoi ça s'est développé aussi rapidement, c'est que ce programme-là est né du désir des jeunes de faire ces activités-là, de participer à ce genre de programme-là. C'est une professeure qui était à l'école, qui est en contact rapproché avec ces jeunes. Puis c'est resté encore à ce jour la chose la plus importante pour nous à chaque fois qu'on prend une décision, c'est est-ce qu'on répond réellement aux besoins des jeunes? Est-ce qu'on est en train de les écouter puis de réfléchir à nos actions en fonction de ce que les jeunes demandent, ce que les jeunes veulent, ce que les jeunes ont besoin? C'est pour ça que le programme est passé de une classe de 7 élèves en 2014 à 4 communautés différentes l'année suivante, à 7 communautés différentes qui l'appelaient Valérie littéralement pour dire on veut offrir ce programme-là dans notre communauté. Et puis qu'en seulement 3, 4 années, on était rendu présent dans 14 communautés. Puis c'était un petit projet d'une classe qui rapidement a pris une ampleur phénoménale. Puis il a fallu s'arrêter puis dire bon, comment on est capable de financer tout ça, comment on est capable de mettre ça sur pied. Aujourd'hui, on est ailleurs, on a réussi à stabiliser puis à rendre l'organisation là pérenne dans le temps, mais il y a eu un moment où la popularité a explosé tellement rapidement parce qu'on répondait à un besoin des jeunes puis parce qu'on est encore à l'écoute de ce que les jeunes nous demandent puis nous disent au quotidien.
Puis après 10 ans, on doit avoir des belles histoires de succès aussi.
Oui, certaines très, très belles histoires, des jeunes qui gravitent encore autour de l'organisation, de près ou de loin, depuis les tout débuts. Le vice-président de notre conseil d'administration est un jeune sur la deuxième cohorte en 2015, qui est passé à travers deux de nos programmes, puis qui a voulu redonner à un projet qui lui avait fait tellement bien quand il était à la fin de son secondaire, fait qu'il est maintenant le vice-président du conseil d'administration. C'est un exemple parmi d'autres, mais oui, il y a des très belles histoires de jeunes qui gravitent encore autour, qui nous ont fait des témoignages très touchants aussi de comment c'est venu à un moment opportun dans les challenges, dans les communautés qui vivaient à ce moment-là.
Pourtant, moi, quand j'entends ça, ces activités-là, pour avoir vécu dans ma communauté, moi, je viens de Waswanipi, là, je suis plus au sud avec les Cris, mais on s'entend que dans les communautés, les impacts des pensionnats pour Indiens, un des impacts plus marquants, je dirais, ça va être les problèmes de consommation qu'on retrouve dans nos communautés. Le fait de se tenir occupé avec des activités comme ça doit être bon pour la santé mentale aussi des participants.
Oui, absolument, là. Puis je pense que tu sais, c'est un des moteurs de notre action, là, de tu sais, pas seulement d'occuper les jeunes, là, j'entends souvent ça, mais d'avoir des opportunités, des choix qui peuvent décider de s'impliquer volontairement, de dire ça m'appelle, ça me parle, j'ai envie d'y investir de l'énergie, puis je veux accomplir tel objectif, puis à travers ce chemin-là, ben ils vont développer des forces qui vont se rendre compte de hey, je savais pas, mais je suis vraiment bon là-dedans, ou ils vont développer des nouveaux intérêts avec les jeunes avec qui ils participent, c'est le groupe qui va se former à l'école ou quand ils vont rencontrer des groupes de d'autres communautés pour les grandes expéditions, ils vont avoir un développement de sentiment d'appartenance, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, de se relier aux autres membres des autres communautés du Nunavik. Ils vont avoir appris à communiquer. Tu sais, quand tu es en plein air, puis qu'il y a un blizzard, puis que tu le subis, c'est pas ta faute, c'est pas la faute au guide, c'est la nature, c'est plus grand que toi. Fait que tu faut que tu apprennes la seule chose que tu contrôles, c'est tes émotions, comment tu réagis à ça, mais tu n'as pas de pouvoir face à ce que, tu sais, face à ce que la nature fait. Fait que c'est d'apprendre à gérer tes émotions, à les communiquer correctement. Puis aussi, ben ultimement, tu es dehors, tu bouges, fait qu'il y a aussi quelque chose d'un mode de vie sain, d'activer son corps qui est aussi très bénéfique, là.
Petite question, Human Interest. Comment un gars de la rive sud, sûrement pas autochtone, se retrouve à travailler avec les Inuits dans le nord?
Ma petite histoire personnelle à moi, dans le fond, vous
Ouais, c'est ça.
demandez. Ouais, non, moi, je suis pas autochtone. Comment je me suis ramassé à travailler là? Moi, j'avais déjà eu des contacts beaucoup avec des communautés atikamekw, en faisant beaucoup de canot camping, puis en réalisant qu'on naviguait un territoire, qu'on se déplaçait sur un territoire qui avait déjà été connu, qui appartenait à d'autres personnes, puis j'ai voulu créer des ponts, créer des contacts entre l'institution qui me permettait de faire ce canot-là, puis les communautés atikamekw où on passait, puis j'ai développé un intérêt pour ça. Puis après ça, ben moi, ma petite histoire personnelle, c'est que mon frère était enseignant en Nunavik durant de nombreuses, nombreuses années, puis il m'avait donné ils ont comme des billets d'avion là, quand ils travaillent au Nord, puis il m'avait permis de monter le visiter pendant une semaine, puis lui était bénévole pour Nourage Jeune Caribou, puis je suis comme tombé en amour avec les communautés nordiques, puis j'ai voulu m'impliquer plus, chercher des façons d'y retourner, de m'impliquer, de travailler là. Puis ça a donné au moment où d'une part je finissais mes études, puis d'autre part le petit projet Jeune Caribou a mis sa première offre d'emploi officielle parce qu'il avait débloqué un premier gros budget, puis j'ai sauté sur l'occasion, puis depuis ce temps-là, ça fait depuis 5 ans maintenant que je travaille pour Nourage Jeune Caribou.
Puis que vous habitez dans le nord, comme ça?
Je passe la moitié de mes années au nord, puis
OK.
la moitié de mes années à la maison aussi.
Et puis, quand vous dites que vous êtes tombé en amour avec les communautés inuites, c'est un terme qu'on entend souvent par des non-autochtones qui viennent travailler dans nos communautés. Qu'est-ce qui
Ouais.
vous a fait tomber en amour spécifiquement?
C'est une excellente question. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intangible, du communautaire, du contact qui est franc, qui est direct, qui est humain, qui est sans. Je sais pas. Le contact avec les gens m'a beaucoup plu. Avec les Inuits sur place, j'étais à Pouvirnituk la première fois que je suis monté au nord. J'ai beaucoup aimé ce monde-là communautaire. J'ai beaucoup aimé les discussions, les réflexions, la franchise, le rire, l'humour, l'autodérision que je me devais d'avoir. Puis aussi, l'apprentissage que ça me permettait d'avoir. Je pense que si on entend souvent ça, ben je pense que ça fait du bien à des gens comme moi aussi de sortir de comment dire, j'essaie de bien l'exprimer, de bien le formuler, là, puis je veux parler pour moi, puis pas pour tout le monde qui est en amour avec une communauté, mais c'est un contact humain qui est différent, puis qui m'a fait du bien, qui me fait encore du bien quand je le vis, puis qui est vrai, surtout.
Hugo Dufresne, directeur général de Nurette, je vais vous dire narcormique, est-ce que je dis ça comme il faut?
Oui, exactement.
Bon, ben merci de votre passage à l'émission. C'était bien intéressant. On souhaite longue vie à Nurette. Est-ce qu'on prévoit aussi la formation d'une relève?
La formation d'une relève, vous voulez dire?
À la direction, mais ce sera pour une autre entrevue.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est très gentil. Puis oui, j'espère beaucoup que mon poste... soit pour quelqu'un d'une communauté, de la communauté du Nunavik par la suite, puis que ce projet-là puisse vivre de façon plus locale. Merci beaucoup.
Nakormik.